Chapitre 32. Silvio Benavides a beau avoir prononcé ses dernières paroles avec le maximum d'emphase, son patron n'a toujours pas l'air de le prendre au sérieux. Il se sert une nouvelle tasse de café avec décontraction, comme s'il en était toujours à compter les bottes dans sa tête. Son adjoint porte sa tasse de thé à sa bouche et grimace. Pas de sucre. Serenac se retourne.
Je t'écoute, Silvio. Sidère-moi.
Vous me connaissez, patron, explique Benavides. J'ai épluché tout ce qui pouvait concerner à la fois Giverny et une histoire de gosse. J'ai fini par dénicher ça dans les archives de la gendarmerie. Il bascule dans le fauteuil mou, pose sa tasse de thé par terre et fouille à ses pieds dans la liasse de papier. Il glisse à son supérieur un compte-rendu de gendarmerie de Passy-sur-Eure. Un papier jauni d'une dizaine de lignes. Serenac déglutit. La tasse ébréchée tremble dans ses doigts.
Je vous fais la synthèse, patron. Je crois que vous n'allez pas trop aimer. Il s'agit d'un fait divers. Un enfant a été retrouvé noyé dans le rue de l'Ept à Giverny. Exactement à l'endroit où Jérôme Morval a été assassiné. Mort exactement avec le même protocole, le même rituel, comme vous avez dit. À l'exception du coup de couteau. Le gosse a eu le crâne broyé par une pierre, puis la tête plongée dans le ruisseau.
Lorraine Serenac ressent une violente décharge d'adrénaline. La tasse claque sur le formica.
Nom de Dieu! Quel âge avait l'enfant?
Presque 11 ans, à quelques mois près.
Une sueur froide coule le long du front de l'inspecteur.
Putain! Benavides s'accroche aux accoudoirs comme s'il se noyait dans le fauteuil mauve.
Il y a juste un hic, inspecteur. C'est que ce fait divers s'est déroulé il y a un sacré paquet d'années.
Il marque un silence, redoutant la réaction de Serenac. Puis,
en 1937, pour être exact.
Serenac s'effondre dans le canapé orange. Ses yeux se posent sur le compte-rendu jauni.
En 1937 ? Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Un gosse de 11 ans mort précisément au même endroit que Morval, exactement de la même façon, mais en 1937, c'est quoi ce délire ?
Je n'en sais rien, patron. Vous regarderez, tout est sur le compte-rendu de la gendarmerie de Passy. Si on y pense, ça n'a sans doute strictement rien à voir. À l'époque, les gendarmes ont conclu à un accident. Le gamin a glissé sur une pierre, s'est fendu le crâne, puis s'est noyé. L'accident con, point final.
Il s'appelait comment, ce gosse ?
Albert Rosalba. Sa famille a quitté Giverny peu après le drame. Aucune nouvelle d'eux depuis.
Lorenz Serenac tend le bras jusqu'à son café posé sur la table. Il grimace en buvant le breuvage.
Putain, Silvio, c'est troublant tout de même ton histoire. J'ai tendance à ne pas trop aimer ce genre de coïncidence. Vraiment pas. Comme si le mystère n'était pas assez épais comme ça. Comme si on avait besoin de ça en plus.
Silvio rassemble les papiers éparpillés à ses pieds.
Je peux vous demander un truc, patron ?
Au point où on en est ?
Ce qui me trouble le plus, moi, c'est que depuis le début, nos intuitions sont contradictoires. J'y ai pensé toute la nuit. Depuis le départ, vous êtes persuadé que tout tourne autour de Stéphanie Dupin, qu'elle serait en danger. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis convaincu que la clé se trouve dans la troisième colonne. Qu'il y a bien un assassin qui se balade en liberté et qui est prêt à frapper à nouveau. Mais que c'est la vie d'un gosse qui est en jeu, d'un gosse de 11 ans.
Lorenz pose sa tasse par terre. Il se lève et tape amicalement le dos de son adjoint.
C'est peut-être bien parce que tu vas être papa d'une heure à l'autre. Et que pour ma part, le célibataire que je suis s'intéresse moins aux enfants qu'à leur maman, même mariée. C'est juste une question d'identification. Logique, non ?
Peut-être. Chacun sa colonne, alors, souffle Silvio. Espérons juste qu'on n'ait pas raison tous les deux.
Cette dernière réflexion étonne Serenac. Il observe avec attention son adjoint et il ne discerne qu'un visage tiré et deux yeux las d'être ouverts. Benavides n'a pas encore terminé de trier toutes ses feuilles. Il sait qu'avant de partir, son adjoint, ce soir, malgré sa fatigue, prendra le temps de tout photocopier et de tout ranger dans la boîte à archives rouge, puis de ranger cette boîte à la bonne place sur l'étagère de la salle au sous-sol. M comme Morval. Il est comme cela, son adjoint.
Il y a une explication à tout, Silvio, fait Serenac. Il existe une façon d'emboîter les pièces du puzzle, forcément.
Et Jacques Dupin, soupire Benavides. Vous ne trouvez pas qu'il a assez mariné?
Putain, je l'avais oublié celui-là.
Pour s'asseoir sur le bureau de la salle 101, Lorenz Serenac a poussé une dizaine de bottes bleues et les a empilées en un tas instable. Jacques Dupin ne décolère pas. Sa main droite frotte successivement sa moustache brune et ses joues mal rasées, trahissant un énervement croissant.
Je ne comprends toujours pas ce que vous me voulez, inspecteur. Cela fait près d'une heure que vous me retenez ici. Allez-vous enfin me dire pourquoi ?
Un entretien. Un simple entretien. Serenac embrasse d'un geste ample l'exposition de bottes.
On ratisse large, monsieur Dupin. Vous pouvez le constater. Presque tous les habitants du village nous ont confié une paire de bottes. Ils collaborent calmement. On vérifie que leurs chaussures ne correspondent pas à l'empreinte sur les lieux du crime, puis on ne les ennuie plus. C'est aussi simple que cela.
Tandis que... La main droite de Jacques Dupin se crispe dans sa moustache pendant que la gauche serre l'accoudoir avec nervosité.
Combien de fois devrais-je vous le dire ? Je ne les retrouve pas, mes foutues bottes. Je pensais les avoir laissées dans l'abri qui sert de garage à côté de l'école. Elles n'y sont plus. Hier, j'ai dû emprunter celle d'un ami.
Serenac expérimente un sourire sadique.
Étrange, non, monsieur Dupin ? Pourquoi quelqu'un s'amuserait-il à voler une paire de bottes boueuses ?
Du 43, votre pointure.
Précisément de la taille de l'empreinte mesurée sur la scène de crime.
Silvio Benavides se tient debout au fond de la pièce, adossé à une étagère, côté rayon des bottes neuves et presque neuves, du 39 au 42. Il observe l'entretien avec une lassitude amusée. Au moins, ça le maintient éveillé. À la question posée par Serenac, il aurait bien une réponse en tête, mais il ne va tout de même pas la souffler au suspect.
« Je ne sais pas !» s'énerve Dupin. « Peut-être parce que ce quelqu'un est l'assassin et a eu la bonne idée de voler les premières bottes de la bonne pointure qu'il a trouvées pour faire accuser un pauvre type à sa place. »
C'est la réponse qu'attendait Benavides. « Pas si con, ce Dupin, » pense-t-il.
« Et ça tomberait sur vous, » insiste Serenac.
« Comme par hasard. »
« Ça tombe sur quelqu'un. Ça tombe sur moi. » Ça veut dire quoi, comme par hasard? Je n'aime pas vos sous-entendus, inspecteur.
Contentez-vous d'entendre, alors. Que faisiez-vous le matin du meurtre de Jérôme Morval? Les pieds de Dupin décrivent de larges cercles dans l'espace duquel toutes les bottes de plastique ont été expulsées, comme un gosse coléreux qui fait le vide de jouets dans son parc.
Vous me suspectez, alors?
Vers 6 heures du matin, j'étais encore au lit avec ma femme, comme chaque matin.
Voilà encore un point étrange, monsieur Dupin. Les mardis matins, d'après nos témoignages, vous avez l'habitude de vous lever aux aurores pour aller chasser les garennes sur le terrain de votre ami Patrick Delaunay. Parfois en groupe, seul, le plus souvent. Pourquoi avoir dérogé à vos habitudes le matin du crime, justement ce mardi-là?
Un silence. Les doigts agacés de Dupin continuent de torturer sa moustache.
Allez savoir. Pour quelle foutue raison un homme peut-il avoir envie de rester au lit avec sa femme ?
Jacques Dupin plante ses yeux dans ceux de Lorenz Serenac.
Planté est le mot juste.
Deux poignards. Silvio Benavides ne rate rien de l'affrontement. Une nouvelle fois, il pense que Jacques Dupin se défend plutôt bien.
Personne ne vous le reproche, monsieur Dupin, personne. Soyez sans crainte, nous vérifierons vos alibis.
Quant au mobile ? Serenac repousse avec application la dizaine de bottes bleues entassées au bout du bureau et pose en évidence la photographie de Stéphanie et Jérôme Morval, main dans la main, sur le chemin du coteau.
La jalousie pourrait en être un, vous ne croyez pas ?
Jacques Dupin regarde à peine le cliché comme s'il en connaissait déjà le contenu.
Ne dépassez pas les bornes, inspecteur. Que vous me soupçonniez, si cela vous amuse, pourquoi pas ? Mais ne mêlez pas Stéphanie à votre petit jeu, pas elle. Nous sommes d'accord, je pense.
Silvio hésite à intervenir. Il a l'impression que maintenant la situation peut dégénérer d'une seconde à l'autre. Cérénac continue de jouer avec sa proie. Il a enfilé deux bottes bleues dans chacune de ses mains et essaye distraitement de reconstituer des paires. Il lève des yeux ironiques.
« C'est un peu court comme défense, monsieur Dupin, vous ne trouvez pas ? En termes juridiques, on appelle même cela une défense tautologique. Se défendre d'un mobile reposant sur la jalousie par un excès supplémentaire de jalousie. »
Dupin se lève. Il est à moins d'un mètre de Cérénac. Dupin est plus petit que l'inspecteur, d'au moins 20 centimètres.
« Ne jouez pas sur les mots, Cérénac. Je comprends parfaitement votre petit jeu. Si vous vous approchez encore... »
Cérénac ne lui accorde pas un regard. Il jette une botte et en enfile une autre dans sa main, souriant.
« Vous n'êtes pas en train de me dire, monsieur Dupin, que vous voudriez entraver le bon déroulement de l'enquête ?»
Silvio Benavides ne saura jamais jusqu'où Jacques Dupin aurait pu aller ce jour-là. Il ne tient pas à le savoir, d'ailleurs. C'est pour cela qu'il pose à temps une main rassurante sur l'épaule de Jacques Dupin, tout en mimant un signe d'apaisement à destination de Cérénac.